L'invité.
Entre avril 1915 et juillet 1916, près des deux tiers des Arméniens vivant en Turquie ont été déportés et massacrés. Considéré comme l'un des premiers génocides du XXe siècle, sa reconnaissance politique n'est pas effective dans tous les pays du monde. En France, le génocide arménien a été reconnu en 2001. Le 24 avril est désormais la journée commémorative du génocide arménien. Et pour échanger sur le sujet, je reçois cette semaine Daniel Megardichan, coordinateur culturel du Centre National de la Mémoire Arménienne à Dessine. Bonjour.
Bonjour.
Ce génocide a fait entre 1,2 et 1,5 millions de victimes, mais il reste assez méconnu. Rappelez-nous un petit peu qu'est-ce qu'il s'est passé.
Alors sur le chiffre, c'est une question de borne temporelle qu'on met. Sur la période que vous avez citée, 1915-1916, on arrive à 1,3 million, comme vous dites. Si on va jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, on dépasse très largement les 1,5 million. Quand on parle du génocide des Arméniens, qui ont dû 1,5 million victimes, on est dans les clous, si j'ose dire, par rapport à la réalité démographique. Une proportion qui est peut-être plus intéressante à avoir en tête, c'est que les deux tiers, voire 70% de la population arménienne vivant dans l'Empire ottoman a été éliminée.
Pourquoi est-ce que les Arméniens ont été pris pour cible? Les attaques contre les minorités chrétiennes n'ont pas commencé pour la Première Guerre mondiale dans l'Empire ottoman. Pourquoi à ce moment-là?
Alors à ce moment-là, la guerre a servi de prétexte. L'Empire ottoman connaissait des soubresauts, une sorte d'agonie par rapport à ses possessions, à sa puissance. Elle sortait des guerres balkaniques où elle avait perdu pratiquement toutes ses possessions européennes dans les Balkans. L'Empire ottoman était surnommé l'homme malade de l'Europe par le tsar de Russie qui avait inventé cette expression en disant « mais c'est l'homme malade parce qu'il perd toutes ses guerres, il réduit comme peau de chagrin ». Alors c'est vrai qu'il y a toute une histoire dans le 19e siècle qui commence avec la conquête de l'Algérie par la France, avec l'indépendance de la Grèce et qui va se poursuivre ensuite tout au long du 19e siècle où l'Empire ottoman n'arrive pas à rivaliser, à tenir son rang de grande puissance, parce que c'était une grande puissance hein, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est probablement la grande puissance européenne. Et donc le tsar invente cette idée-là, vous entendez la connotation biologique dedans, l'homme malade. On est dans une époque où l'idéologie est très importante, en particulier l'idéologie liée au combat des races, les unes contre les autres. Or, pour les élites formées dans les universités en Allemagne ou dans d'autres pays occidentaux, ce qu'on va appeler le darwinisme social, qui consiste à dévoyer les théories de Charles Darwin pour les appliquer aux corps sociaux, aux corps politiques, aux nations, aux peuples, aboutissent au résultat suivant. Chacune des nations, chacun des peuples est considéré comme un fauve, en quelque sorte, qui doit combattre contre les autres et prouver sa valeur dans le combat. Et comme tout ça a un habillage scientifique assez poussé, assez bien fait, c'est la science qui est enseignée, hein, qui justifie d'ailleurs cette inégalité des races, qui justifie la domination coloniale, des choses comme ça. Donc il y a tout un appareillage intellectuel derrière. Ça a une conséquence, c'est que ça fait sortir le rapport à l'autre du cadre moral, politique, inspiré de la religion que le monde avait connu jusque-là. Et quand ces jeunes élites turques, on va appeler les jeunes turcs, mais en plus la frange la plus nationaliste des jeunes turcs, va prendre le pouvoir, d'abord dans une révolution libérale, puis ensuite par un coup d'état militaire qui va instaurer le règne d'un parti unique dans l'Empire ottoman à partir des années 10, hein, 1911-1913, les choses sont jouées, on a un parti unique, on a tous les pouvoirs réunis dans ces mains-là, de personnes qui sont formées à ces théories racialistes et qui disent « mais nous, la puissance turque, on a été conquérante du monde entier, on vient du fin fond de la Mongolie, on a toujours conquis tous les territoires sur lesquels on est arrivé, on a pu créer un grand empire, on n'arrive plus à gouverner ». Parce que l'État, considéré comme un être vivant, est malade d'éléments hétérogènes, d'éléments extérieurs qui l'affaiblissent, à tel point que sa survie même est en jeu. Et donc la décision est prise d'éliminer ces parties qui sont considérées comme dangereuses pour la survie même de l'État. Tout ceci se passe dans le cadre d'une pensée qu'on appelle le panturquisme. Le panturquisme, ça consiste à vouloir réunir sur une base raciale toutes les populations d'origine turque dans un seul et même empire, qui serait immense du coup, qui irait du Bosphore jusqu'à la Mongolie, en réunissant toutes les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, hein, qui vont de l'Azerbaïdjan, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, et j'en passe sans doute, Kazakhstan, et qui constituerait un empire suffisamment fort pour pouvoir rivaliser avec les grands empires qui sont ses concurrents directs. L'Empire britannique, l'Empire français et les grandes puissances coloniales, dont la Russie. Toute la conquête de la Sibérie, qui a donné cette taille immense à la Russie, s'est faite dans une perspective coloniale aussi. Et donc la guerre, la Première Guerre mondiale et l'entrée de la Turquie dans la Première Guerre mondiale, s'explique certainement principalement par le fait que ça donne l'occasion de réaliser ce projet, c'est-à-dire d'homogénéiser le territoire turc en le turcisant et en éliminant, par la force des choses, les minorités qui ne rentrent pas dans ce cadre idéologique. Certaines minorités qui ne subiront pas de persécution, mais aux côtés des Arméniens, d'autres minorités, en particulier les minorités chrétiennes, vont prendre de plein fouet cette nouvelle politique qui est mise en place comme une ingénierie sociale. C'est comme si le chef de l'État était l'ingénieur de la nation et veut la façonner. Un nouveau pays, une nouvelle population, etc. Ces autres populations sont les Assyro-Chaldéens, les descendants des Assyriens et des Babyloniens de la haute antiquité. Il y a aussi les Grecs qui habitent donc les régions de Trébizonde, de Sinope, la côte de la mer Noire, et qui sont, si vous regardez une carte, les Assyro-Chaldéens, les Grecs pontiques, les Arméniens, sont en plein milieu de ce futur empire qu'on veut créer, qui irait du Bosphore jusqu'à la Mongolie. Voilà, la décision est prise d'éliminer purement et simplement, à la faveur de la guerre, qui, déjà dans un état totalitaire qui a tous les moyens, en plus, donne un monopole de la violence, de la coercition. Évidemment, c'est la guerre totale, donc tous les moyens de l'État vont être mobilisés pour ce projet, projet qui du reste est totalement pensé, planifié, bien avant de le mettre en marche.
On le disait, les deux tiers des Arméniens vivant en Turquie ont été décimés. Quelles ont été les conséquences de ce génocide sur le peuple et sur la culture arménienne ?
Les conséquences ont été très très profondes, parce qu'on est passé à deux doigts d'un anéantissement pratiquement total. Et le génocide des Arméniens se caractérise aussi par le fait d'une déterritorialisation totale. Il n'y a plus d'Arméniens qui vivent sur les terres qui, depuis l'Antiquité, étaient arméniennes. Et il y a un lien entre la terre et la culture. Il y a quelque chose, les structures, les endroits, les habitudes. C'est très compliqué pour un peuple qui est, d'une part, vous l'avez dit, décimé, bien que le terme décimé, c'est 1 sur 10, on est 7 sur 10, c'est beaucoup plus. Un peuple qui est forcé de vivre dans l'exil, dans des conditions difficiles, a beaucoup de mal à recoller les morceaux, y compris par rapport à sa propre culture, à sa propre histoire. Ça aboutit tout ça, en diaspora, à la volonté très forte de recréer les moyens de la transmission de cette culture par des associations, dès l'époque de l'arrivée, dans les années 20-30, autour de l'église, autour d'associations, autour à Dessine, par exemple, en 1932, est ouverte la Maison du Peuple Arménien, qui a été créée comme une entreprise collective et mutuelle pour donner un endroit où pourraient être retransmis tous les éléments de la culture profane. La langue, avec les écoles, la musique, la danse, le théâtre, enfin tout ce qui est effectivement culture profane, parce que les gens ressentaient que, au-delà des morts, au-delà des pertes humaines, ce qui était en train de se jouer, c'était le risque d'un effacement pur et simple de cette culture qui était plurimillénaire et qui avait subi des pertes qu'on craignait être irréparables.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut affirmer malgré tout que les Arméniens des diasporas, donc les Arméniens français, sont les mêmes que leurs ancêtres d'antan en Turquie ?
Bien sûr que non, il s'agit avant tout de Français d'origine arménienne, ou d'Américains d'origine arménienne, sachant que les principales diasporas sont par ordre d'importance en Russie, aux États-Unis, en France, puis ensuite dans d'autres pays. Il y en avait beaucoup au Proche-Orient, mais avec d'une part la guerre du Liban dans les années 70-80, et puis maintenant les événements récents, les communautés se réduisent numériquement beaucoup. Non, bien sûr, la vie en diaspora fait qu'il y a des phénomènes de déperdition, de maîtrise de sa culture ancestrale, évidemment, parce que c'est une langue qui est compliquée, qui est différente, et puis qui n'était pas très bien vue dans l'école de la République des années 30 ou 40 ou 50. Un petit Arménien était traité au même titre qu'un petit Breton, qu'un petit Auvergnat, c'est-à-dire un instituteur interdisé, qu'on parle les patois ou langues qui n'étaient pas le français. Donc, il y avait une pression très forte pour fabriquer les petits Français, en fait. Puis après, vous avez tout un tas de processus qui sont à l'œuvre aussi, souvent pour des gens qui avaient tout perdu, mais qui avaient la chance de savoir qu'en France, qui était connue la France, comme le pays des droits de l'homme, même dans l'Empire ottoman, on savait évidemment. Dans ma famille, je sais qu'au pays, ils avaient lu Les Misérables de Victor Hugo. Enfin, c'était quelque chose d'important. Donc ces gens se trouvaient ici, savaient qu'ils étaient dans un pays qui était admirable du point de vue de l'état de droit, c'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'ils avaient vécu en tant que persécutés. Et donc ils avaient la tentation, pour certains, d'une part, d'oublier cette histoire trop traumatisante et de se fondre dans ce moule accueillant, etc. Donc ça aussi, ça a contribué à une sorte de déperdition dans la transmission de la culture arménienne proprement dite. Mais malgré tout, il y a encore en diaspora un attachement, parfois une pratique qui n'est pas majoritaire de la langue, mais ce n'est pas ce qui compte. En fait, ce qui compte, c'est ne pas oublier ses racines, ne pas oublier l'histoire par rapport à laquelle on est issu, et puis savoir qu'on peut très bien, en combinant des éléments d'une culture d'origine, même s'ils sont un peu distants, avec les éléments d'une culture d'accueil, on peut très bien devenir autre tout en restant soi-même un petit peu. Charles Aznavour dit souvent, et c'est très juste ça, il dit « moi je me sens 100% français et 100% arménien ». Même si ça fait 200%, ça ne me pose pas de problème. On peut, dans la mesure où il y a une cohérence et une complémentarité entre les éléments qu'on va combiner. On peut imaginer une culture totalement étrangère aux valeurs portées par le pays d'accueil. Là, il y a des problèmes qui peuvent se produire de compatibilité en fait. Mais là, il n'y a pas de problème de compatibilité. C'est pour ça que bien souvent, les observateurs étrangers à la communauté arménienne vont décrire l'intégration arménienne comme une intégration parfaitement réussie. Mais je crois que c'est dans cette articulation entre des éléments de cohérence qui sont communs à la culture d'accueil et la culture d'origine.
Vous le disiez, une volonté au départ, à l'arrivée en tout cas, presque pas d'oublier, mais en tout cas de s'intégrer, de devenir vraiment français. Est-ce que le souvenir de la Shoah a finalement fait remonter des choses aussi pour les Arméniens et on fait remonter ce désir aussi de reconnaissance un siècle plus tard? Quel regard est-ce que les Arméniens posent sur cette partie de leur histoire?
Il y a un phénomène de génération qui s'est produit, c'est-à-dire comme dans tous les génocides ou crimes contre l'humanité de l'histoire, la génération des survivants directs est très très discrète sur tout ça. Ou en tout cas, si elle n'est pas discrète, elle ne l'est que dans l'espace privé, que auprès des très proches, de la famille, des choses comme ça. Souvent, la deuxième génération cherche à oublier, cherche à refaire sa vie, cherche à retrouver une position. Souvent, c'est dans la troisième génération qu'une volonté de savoir, une volonté de comprendre se fait jour, parce que c'est aussi constitutif de ce qu'on est hein, tous en tant qu'individu, quelle que soit sa nationalité d'origine. C'est intéressant de savoir les racines. C'est quelque chose qui a joué. Le rôle de l'après-guerre, de la Shoah, etc. Notez que pour la Shoah, il faut attendre longtemps aussi pour qu'il y ait une sorte de reconnaissance. Il faut attendre la fin des témoins directs. Et dans le cas de la Shoah, on a aussi cet élément qui est essentiel pour un retour à l'événement et au travail de mémoire, au devoir de mémoire, c'est que les responsables ont été jugés par un tribunal international, etc. Et justice a été faite. Ça a été le cas en Turquie, mais ça a été passé sous silence et très bien masqué. Il y a eu des cours martiales spéciales qui ont été mises en place en 1919-1920, dont les jugements qui étaient en train d'être rendus, beaucoup avaient été rendus, et qui se traduisaient un petit peu par l'équivalent de ce qui était arrivé au procès de Nuremberg. C'était on condamnait les criminels à la peine capitale, etc. Il y a eu beaucoup de condamnations par contumace parce qu'ils avaient trouvé refuge chez leurs alliés allemands, les responsables. Mais à partir de 1920, quand la nouvelle Turquie naît autour du mouvement kémaliste, et en 1923, il y aura la première république turque proclamée, toute cette page est totalement occultée, effacée, même inversée pratiquement. À l'heure actuelle, en Turquie, vous avez des mausolées à la gloire des responsables du génocide arménien, qui sont considérés comme des héros de la nation. Alors là, l'élément comparaison avec l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale est frappant. C'est comme si en Allemagne, actuellement, vous aviez des places Adolf Hitler et des boulevards Himmler, etc., etc. Tous les responsables de la Shoah, ça serait très très choquant. Mais on est dans le cas d'un État qui impose une violence sociale et une coercition, y compris sur l'histoire même du pays, qui a été totalement refaçonnée, dans une perspective négationniste par rapport aux questions arméniennes, mais aussi grecques ou assyro-chaldéennes, et tout un discours qui est très offensif et négationniste. Et ça, c'est difficile. Et ça a pu être un élément en se disant, pour les gens dans la communauté arménienne, en se disant, on vit une injustice quand même. D'où cette demande, dont vous en parliez dans votre introduction, demande de reconnaissance qui s'est aussi adressée aux homologues de l'État turc, c'est d'autres États, pour qu'eux disent non, nous on connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé. L'histoire a été décrite d'ailleurs par des témoins directs au moment même où ça se passait. Tous les consuls, y compris des pays neutres comme l'Italie ou les États-Unis qui étaient sur place, ou des missionnaires, des infirmières, etc. Donc ça a pu jouer. Une chose importante dans l'histoire le réveil de la mémoire arménienne se passe 50 ans après. C'est en 1965, vraiment, que ça naît, et partout, dans toute la diaspora aux États-Unis, en Arménie même, qui était république soviétique, mais où les responsables ont décidé de construire le grand ensemble monumental qui est la colline des Hirondelles, sur laquelle il y a le mémorial. En arménien, c'est le Didier Canapels, mais ça veut dire la colline des Hirondelles. Alors, ils l'ont fait contre la ville de Moscou. Et partout en diaspora, on a eu ça à Dessine, par exemple, la rue du 24 avril 1915, est donnée en 1965, décision d'ériger le mémorial sur la place de la Libération à Dessine, c'est également cette année. C'est une année importante. Mais 50 ans, ça fait une période qui est longue. Ça évoque vraiment une caractéristique de cette histoire. C'est que pendant 50 ans, le mot même d'Arménie est passé en dehors de tous les radars informationnels, académiques. Nulle part, on en parlait. Alors que pendant la Première Guerre mondiale, et jusqu'au traité de Sèvres, la presse, pratiquement quotidiennement, parlait de ce qui se passait en Arménie, etc. Au traité de paix, l'Arménie était signataire dans le camp des Alliés. Ils ont signé avec la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, etc., etc. Mais dès 1923, dès l'instauration de la République turque, et c'était une exigence de Mustafa Kemal, la question n'apparaît même plus. Alors, le traité de Lausanne en 23, il n'apparaît plus. Le traité de Sèvres en 1920, et c'est un signataire important qui apparaît dans tous les paragraphes. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais qui n'a pas aidé, soit au réveil, soit à la continuation de ce combat. Finalement, le combat pour la reconnaissance a été très difficilement porté dans les années 20, les années 30, puis après il s'est un petit peu éteint, en tout cas dans la résonance qu'il avait. C'était quelque chose qui était confiné aux gens qui étaient arméniens eux-mêmes, qui étaient victimes ou descendants de victimes directement, mais sans avoir aucun écho. Et quand on n'a pas de relais ou d'écho en dehors de soi-même, c'est compliqué de porter quelque chose.
On parle de reconnaissance, justement, il faut attendre 2001, c'est tard, 2001 pour une reconnaissance de la France, qui accueille pourtant une grande diaspora arménienne, parce que les chiffres que j'ai vus en 2011, c'était 600 000 Arméniens en France à peu près. Pourquoi si tard? C'est uniquement une question politique?
Question de rapport de force politique, du poids d'un État, la Turquie, qui reste négationniste sur cette question, et qui pèse de tout son poids, véritablement. C'est de la diplomatie, de la menace, menace économique, menace stratégique. Son appartenance en tant que membre très fort dans l'OTAN, ils savent en jouer très fort. Et puis il y a les contrats économiques, des choses comme ça. En 2001, d'ailleurs, c'est intéressant, avant que cette loi ne soit promulguée, il y avait eu toute la palette des menaces économiques, comme quoi les contrats seraient tous annulés, etc., etc. Mais les chiffres du commerce extérieur sur l'année 2001-2002 ont montré que ça n'avait aucune incidence réelle. Disons qu'il y a le monde de la diplomatie, de la politique, et puis il y a le monde des affaires économiques qui vit sa vie un peu indépendamment. Mais les responsables et les décideurs ont souvent tendance à surinterpréter tout ça et à donner trop de poids à la menace. Oui, il a fait du temps. Il y a eu, dès les années 80, des déclarations. Le président Mitterrand à Vienne en 83, si je me souviens bien, avait dit dans un discours de président de la République, avait dit « génocide des Arméniens ». Mais il a fait du temps parce qu'il y a eu des avancées, des reculs. C'était tout un combat qui a été mené et qui, aux yeux de beaucoup dans la communauté arménienne, n'est pas mené jusqu'à son terme encore, dans la mesure où ce qu'il serait bien avec cette loi déclarative, pour la citer, c'est « La France reconnaît le génocide arménien de 1915 ». Point. C'est une loi d'une seule phrase et une loi déclarative. Beaucoup de personnes, et ça c'est une attente qui est très certainement légitime, attendent que cette loi puisse être fonctionnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui enfreigne cette loi subisse une punition. C'est-à-dire quelqu'un qui serait un négationniste du génocide des Arméniens encourt une peine. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été arrêtées. La dernière en date remonte à... Il y en a une en 2007 et puis il y en a eu une, c'était il y a 2 ans déjà, mais qui n'a pas abouti parce que une fois c'était le Sénat qui ne l'avait pas ratifié alors que l'Assemblée nationale l'avait ratifié. Et la seconde fois c'était le Conseil constitutionnel qui avait trouvé ça inconstitutionnel. Nul ne peut ensuite empêcher les gens de penser que c'est sans doute le poids de la pression de l'État extérieur négationniste qui fait que ça n'a pas été fait. Parce que ça pose un problème. Vous savez qu'en France, il y a la loi Guesso. Pour tous les crimes de la Seconde Guerre mondiale, on a un arsenal très complet et qui permet vraiment de punir. Et ça a empêché la prolifération du discours négationniste tel qu'il y avait avant l'adoption de la loi Guesso. Alors les gens qui disent non, il ne faut pas légiférer sur l'Arménie, c'est parce que c'est la liberté d'expression qui est en jeu. Si on prend l'argument pour la loi Guesso, l'existence de la loi n'empêche aucunement la recherche, aucunement le travail des historiens, etc. parce qu'un négationniste n'est jamais un historien. C'est-à-dire qu'il va faire un travail de falsification. C'est un faussaire. C'est très, très, très embêtant. Et cette idée qu'il puisse y avoir une pénalisation pour les négationnistes du génocide des Arméniens est quelque chose qui reste très fort comme attente des descendants, des victimes, ou tout simplement des gens qui sont attachés au respect des droits, au respect de ce qui fait que nos démocraties occidentales sont encore des démocraties occidentales.
Est-ce qu'il y a d'autres attentes principales, outre celle-ci? Et j'imagine la reconnaissance par la Turquie, mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres attentes principales des Arméniens aujourd'hui?
Cette loi de pénalisation serait vraiment l'attente principale. Évidemment, il y a la reconnaissance par la Turquie, mais le poids du génocide des Arméniens est tellement fort dans l'histoire même de la Turquie. C'est-à-dire que la Turquie s'est bâtie concrètement là-dessus, avec des spoliations de terres, de richesses, etc., avec des lois qui avaient été prises au moment où le génocide était perpétré, que ça semble un peu illusoire que ça arrive. Pourtant, si ça pouvait arriver, on devine, et des études de chercheurs vont tout à fait dans ce sens, on devine que ça libérerait la Turquie de tout ce qui l'empêche d'être une démocratie. Vous savez, on parle beaucoup maintenant de la poussée autoritaire du président Erdogan. Avant le président Erdogan, il y avait un État très lié au militaire, au kémalisme. Et tous les 10 ans, il y avait un coup d'État militaire, avec des quantités de personnes incarcérées qui étaient phénoménales. Au dernier, il y avait plus d'un million de personnes incarcérées. Une société qu'on sent bloquée, parce qu'elle est construite sur un mensonge du départ. Le mensonge, c'est de vouloir cacher ce qui s'est produit pendant la Première Guerre mondiale. C'est un des fonds baptismaux, si j'ose dire, de la République turque. Il y a ce crime. Et tant que l'État ne le reconnaît pas, c'est très compliqué. Comment pouvoir parler librement et de choses vraies dans une société si fondamentalement le point de départ est biaisé et tout le monde fait semblant que ça n'a pas existé? Donc c'est très compliqué. Mais c'est une des revendications qui sont portées par le parti HDP en Turquie, très libéral sur ces questions. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il soit le parti qui représente la minorité kurde, qui elle aussi a des revendications liées à la justice qui lui est faite dans ce pays-là. C'est un des points qui est porté par les libéraux en Turquie, évidemment. Et beaucoup de gens qui sont en exil en Europe ou dans d'autres pays font le lien entre le négationnisme d'État et le blocage que ça crée sur la société turque même.
Daniel Megardichian, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes coordinateur culturel du Centre National de la Mémoire Arménienne, que vous retrouvez sur internet cnma.fr.